Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour. Autour des années 60 et 70 du siècle dernier, un bouleversement anthropologique s'est produit en France et dans la plupart des sociétés occidentales. Le modèle du héros qui prévalait jusqu'alors et dictait nos comportements a cédé la place au modèle de la victime. C'est ce qu'écrit notre invité François Azouvi dans son essai brillant qui s'intitule « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré », essai qui va être au cœur de notre conversation. Avec lui. L'idéal héroïque est malmené, souligne-t-il, sans doute pas en Ukraine, mais en France certainement. Nous allons en parler avec lui donc dans ce nouveau numéro du magazine Idée qui interroge, vous le savez, celles et ceux qui pensent le monde. À écouter aussi quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio, le site de RFI ou bien encore votre plateforme numérique préférée, un magazine réalisé par Vanessa Rovansky. Bonjour François Azouvi.
Bonjour.
Je suis heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous
êtes, pareillement.
Merci. Vous êtes philosophe, historien, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Auteur notamment d'un essai remarqué que j'avais beaucoup aimé aussi en 2021. Français, on ne vous a rien caché. La résistance, Vichy, notre mémoire dans la collection NRF Essai. Et en 2015, le mythe du grand silence, Auschwitz, les Français, la mémoire, publié dans la même collection chez Gallimard. La mémoire est un de vos sujets de réflexion.
C'est vrai, c'est devenu un de mes sujets de réflexion. Et vous avez évoqué les deux précédents livres. En fait, la question des héros et des victimes traverse les deux livres que vous avez évoqués. Et je m'en suis rendu compte après coup, ou du moins j'ai réalisé à quel point c'était vrai après coup. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la question, de prendre cette question
à bras-le-corps
et de lui consacrer un livre pour elle-même, parce que je pense qu'elle va vraiment au cœur de notre société et le changement anthropologique auquel vous faisiez allusion concerne nos sociétés et les travails de fond en comble.
François Azouvi, pourtant, cette société occidentale et notamment société française est nourrie d'une culture du héros. Vous écrivez « Toute l'histoire occidentale est faite du récit de vies héroïques depuis les héros de l'Antiquité gréco-romaine, les figures de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, celles de Bayard et de Roland, jusqu'aux héros de la bataille de la Marne et à ceux de la France libre, en passant par le culte des grandes vertus et des hommes extraordinaires. »
Ben oui, la culture héroïque, en fait, elle est antédiluvienne. Et c'est la raison pour laquelle ce changement anthropologique qui fait la société des victimes dans laquelle nous sommes est particulièrement important à étudier, parce que c'est un bouleversement sans précédent. Mais je voudrais vous donner une illustration, la meilleure illustration que j'ai trouvée de ce changement. Je trouve cet exemple extraordinairement parlant, si vous me permettez. C'est le monument aux morts de la petite ville de Dôme, en Dordogne. Alors, ce monument aux morts comporte deux inscriptions. La première est tout à fait classique et dit ceci: « Dôme à ses héroïques soldats morts pour la France ». C'est clairement une inscription qui concerne les morts de la guerre de 14. Je suppose que l'inscription doit dater des années 20, oui, très certainement. Donc, les morts de la guerre sont des héros. Et puis, il y a une deuxième inscription qui est ainsi libellée: aux victimes de la guerre de 1939-1944. Bon, je passe sur la question de la chronologie 1944, un peu étrange, mais peu importe. Ce qui me retient, c'est évidemment la qualification de victime, et encore davantage quand on voit les trois catégories de victimes qui sont détaillées. Il y a en effet les déportés, qui sont cités, donc très bien, des victimes. Il y a les fusillés, très bien encore. Et puis il y a les morts au combat. Et ça, c'est tout à fait significatif, car vous voyez que là, les morts au combat de la guerre de 39-45 sont devenus des victimes. Les morts au combat de 14-18 sont des héros, ceux de 39-45 sont des victimes. Je crois qu'on ne peut pas faire exemple plus parlant de ce bouleversement anthropologique.
Et il y a un autre exemple, il y en a beaucoup, mais un autre exemple notamment que vous citez dès le début de votre livre, François Zouvi, c'est l'exemple du gendarme, oui. Arnaud Beltrame, tué à Trèbes le 23 mars 2013. Il y a eu à Paris, l'inauguration d'une un square qui porte son nom. Mais je voudrais d'abord, avant de parler de ce square et de ce qui était écrit sur la plaque de ce square, remonter donc à 2013 et écouter ce reportage lors d'une cérémonie d'hommage à Paris aux Invalides à la mémoire d'Arnaud Beltrame.
Au passage du cercueil d'Arnaud Beltrame, recouvert de couronnes de fleurs, la foule applaudit. À quelques mètres du Panthéon, au cœur du quartier étudiant de la capitale, ce groupe de jeunes filles a tenu à assister à la cérémonie.
On est étudiante à la Sorbonne ici, donc voilà, ce matin on était en cours et on vient ici. C'est un moment dans la vie d'un citoyen, donc on est ici. C'est vraiment un acte héroïque de bravoure et on salue ça aussi aujourd'hui.
Sur l'esplanade des Invalides, malgré la pluie et le froid pénétrant, Anne Darvet est venue, capuche sur la tête. Elle a apporté deux choses avec elle.
J'ai une photo de M. Beltrame, avec en dessous, j'ai marqué « homme de courage ». Et puis j'ai des fleurs bleues, blanc, rouge, symbole de notre peuple, de la France et de notre fierté.
Ce qu'on voit dans les rues de Paris pour Arnaud Beltrame a, selon Pascal Clerc, une portée bien plus vaste qui s'adresse à l'ensemble des forces du pays.
Les soldats qui servent là au Mali actuellement ou dans le cadre de la force contre Daesh se sont très identifiés à lui, je crois. Donc il fédère beaucoup de combats.
Après le passage du convoi funéraire, on voit ça et là des bouquets de fleurs déposés contre les murs des immeubles parisiens.
Reportage de 2013, donc, lors de la mort d'Arnaud Beltrame, suite de ce magazine Idée, en compagnie de François Azouvi, nous parlons de cette transition, de cette métamorphose du héros à la victime. Vous avez commencé votre livre avec Arnaud Beltrame, pour quelle raison? Moi je la connais, il faut l'expliquer aux éditeurs.
Ben, c'est vrai qu'il illustre parfaitement ma thèse et l'embarras dans lequel nous sommes aujourd'hui quand il s'agit de qualifier des héros. La plaque inaugurale qui avait été apposée pour le colonel Beltrame disait, je ne me rappelle pas exactement la formule, mais peu importe, au colonel Beltrame, victime de son héroïsme. C'est tout de même extraordinaire d'être victime de son héroïsme. On a l'impression que la personne qui a pensé cette inscription s'est efforcée de lui donner le maximum de valeur. Et pour lui donner le maximum de valeur, il fallait en faire une victime. Être un héros, au fond, ça ne pouvait pas suffire.
Et le résultat, c'est que c'est un oxymore.
Ben évidemment. Évidemment, c'est ridicule. Et par antiphrase, on pourrait évoquer le discours de Malraux pour la panthéonisation de Jean Moulin en 64. Est-ce qu'on imagine une seule seconde Malraux disant de Jean Moulin qu'il a été victime de son héroïsme? C'est évidemment parfaitement impossible. Jean Moulin était un héros, un pur héros. Point. Et Beltrame était aussi un héros. Et voilà, il fallait le dire dans ces termes.
François Azouvi, dans votre livre qui est extrêmement intéressant, riche, que je conseille vraiment, vous faites l'histoire de cette métamorphose en partant, en ce qui concerne la France, du premier conflit mondial, de la Première Guerre mondiale, où là, le héros est prédominant.
Oui, j'ai choisi de commencer en 1914. J'aurais pu commencer bien avant, comme vous le disiez tout à l'heure, à Bayard ou à je ne sais quand. Mais bon, outre que ça aurait fait un livre monstrueusement long, mais je pense que ce n'était pas la peine. Et j'ai choisi de commencer en 1914 parce que je crois... D'abord que en 1914, ce modèle héroïque se montre dans sa puissance la plus forte, la plus visible sans doute, et aussi parce que c'est là sans doute, après la guerre du moins, que le modèle héroïque prend ses premiers coups. Alors, avant la guerre de 14 et pendant, ce modèle héroïque est tout puissant et il est en particulier, il est évidemment relayé par l'Église pour qui les héros sont des saints. Et je crois que c'est tout à fait important si on veut comprendre la façon dont le héros disparaît et la victime apparaît. Je crois que c'est tout à fait important de souligner d'emblée le lien entre l'héroïsme et la sainteté. L'héroïsme ne se découple pas de la sainteté et c'est un couple qui est dont la valeur chrétienne est évidente et constamment affirmé. Et pour les théologiens, les hommes d'Église de 1914, il ne fait aucun doute que les morts de la guerre de 14 seront assis à la droite du Seigneur. Donc, on est là dans une configuration tout à fait traditionnelle, très puissamment affirmée, mais qui va, au lendemain de la guerre, non pas disparaître, mais se transformer. Parce que la durée de la guerre, l'ampleur des sacrifices consentis, l'ampleur de l'horreur laisse évidemment planer un doute ou du moins jette une ombre sur ce modèle héroïque. Bon, il y a plusieurs romans, ils sont bien connus maintenant, qui paraissent après la guerre ou même pendant la guerre. Et,
de Barbus, de Romain Rolland, voilà, de la Mêlée,
de Dorgelès, etc.
Qui raconte justement le fait des combattants.
Voilà.
Maurice Genevoix.
Exactement, bien sûr. Qui, je dirais, dédore le blason de l'héroïsme, au moins en partie. En tout cas, il s'attaque, et alors ça m'a frappé aussi, pas tant à l'héroïsme qu'à l'héroïsme dévoyé dans la guerre. Et ça, c'est quelque chose sur quoi j'ai insisté parce que ça me paraît important. Dans l'entre-deux-guerres, l'héroïsme subit des coups, l'idéal héroïque subit des coups, c'est vrai, absolument.
Avec le pacifisme.
Notamment, mais ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Il se transforme, il se convertit sur d'autres valeurs, par exemple le sport, par exemple la colonisation est considérée comme un exemple d'héroïsme et donc encouragée en ce sens. Le pacifisme lui-même est considéré comme non pas comme un idéal de faiblesse et de passivité, mais comme un idéal qui requiert notre énergie, et donc où l'héroïsme est également requis.
Les découvertes, l'aviation.
Absolument, l'aviation bien sûr, etc. Vous avez raison, l'aviation, oui. Il suffit de penser à Saint-Exupéry, Kessel, Malraux, enfin bon, tous ces auteurs de romans qui font des gros succès de librairie lancent sur le marché, si je puis dire, un idéal héroïque renouvelé.
Et sur cette notion de l'héroïsme après-guerre, entre les deux guerres en tout cas, citons Céline, que vous citez évidemment dans votre livre. Faut-il rappeler, écrivez-vous, ce que Bardamu, l'anti-héros du voyage au bout de la nuit, dit de l'héroïsme ? Il dit ceci, « Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la salame héroïque et fainéante des hommes ?»
C'est formidable comme citation. Alors, Céline incarne justement ce courant qui n'est pas majoritaire dans l'entre-deux-guerres, ce courant qui ne veut plus entendre parler de l'héroïsme, au motif que l'héroïsme est couplé avec la guerre. Et pour Céline, l'expérience de la guerre était absolument décisive et il jette aussi bien l'idéal guerrier que l'idéal héroïque. Mais c'est pas le cas de tous. Alors évidemment, il y a des gens comme Giono qui sont des pacifistes intégraux.
On l'a critiqué d'ailleurs pour
ça. Bien sûr, qui font le même pari. Il y a des pacifistes qui, juste avant la guerre, disent tout plutôt que la guerre, il vaut mieux être nazifié plutôt que de se lancer dans une nouvelle guerre. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas de tous.
François Azoulay, il y a une autre étape, il y en a plusieurs, mais nous sommes obligés d'y aller un petit peu au galop dans cette promenade historique. C'est l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, où là les choses changent totalement. Oui. La notion de héros et de victime est déjà bouleversée.
Elle se bouleverse, si je puis dire, assez rapidement, après une brève phase où le héros et le martyr sont glorifiés dans la foulée de la Seconde Guerre, mais ça dure très peu de temps. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point et à quelle vitesse le modèle héroïque se périme, s'use. Et on le voit à travers un certain nombre de films ou de romans qui ont l'avantage de nous offrir une vision renouvelée du modèle héroïque. Et on voit que ce n'est plus dès les années 50 et a fortiori dans les années 60, ce n'est plus le modèle héroïque qui triomphe. Et puis, phénomène absolument décisif dans cette histoire de la société des victimes, il y a les victimes d'Auschwitz. Il n'est pas douteux que ce sont elles qui vont constituer le fer de lance, le moteur, le premier moteur de la constitution de la catégorie de victimes, les morts d'Auschwitz. Dans un premier temps, d'ailleurs, juste à la suite de la guerre, ont été pensés comme des héros ou des martyrs, selon l'ancienne échelle de valeur. Mais très vite, cette façon de les considérer s'use, disparaît, n'est plus tenable. Et c'est à leur propos que s'élabore, difficilement, douloureusement même parfois, que s'élabore la catégorie de victime. Et ça se fait, là encore, dans les années 50 et 60, les victimes juives de ce qui ne s'appelle pas encore la Shoah, deviennent le moteur de cette victimisation, de cette élaboration de la victime. Un jalon très important, je crois, au moins pour la France, c'est la publication du prix Goncourt de André Schwarzbach, Le Dernier des Justes, qui est en 59. Et là, dans Le Dernier des Justes, Schwarzbach met en scène un non-héros, je ne dis pas un anti-héros, mais un non-héros, c'est-à-dire quelqu'un qui se sacrifie, va à Auschwitz alors qu'il aurait pu échapper, mais il y va. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la motivation, c'est sa motivation. Il n'y va pas pour des raisons religieuses, il y va parce qu'il n'y a plus rien. Parce que le monde, au fond, s'est écroulé. Et plus rien ne justifie qu'on demeure vivant. Et c'est ce qui m'a intéressé là, c'est le fait justement que cette victimisation, cette élaboration de la catégorie de victime se fait sur fond de perte du modèle religieux, de l'investissement religieux. L'élaboration de la catégorie de victime suppose, et c'est en cela que ça a été difficile, elle suppose la disparition, l'évanouissement du modèle religieux. Et pour le montrer, c'est en tout cas comme ça que les choses me sont apparues, j'ai été frappé par un fait. Bon, les victimes d'Auschwitz ont été à l'évidence le moteur, je le disais tout à l'heure, de cette victimisation, de cette élaboration de la victime. Mais en réalité, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, et dans l'histoire de France, qu'une population est susceptible de devenir des victimes. Qu'on pense par exemple, justement, on en parlait tout à l'heure, aux morts et aux blessés de la Première Guerre. Bon, ça représente, les morts et les blessés, ça représente à peu près 4 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 10% de la population française. Or, cette population n'a pas été considérée comme victime. Ça a été des héros. On en a fait des héros. En revanche, les 75 000 ou à peu près 75 000 déportés juifs de France, ou les 6 millions de juifs du monde entier, justement, eux ont été considérés comme des victimes. On en a fait des victimes. C'est donc, à mon sens, qu'un autre phénomène a joué, et a joué, je crois, un rôle qui est un peu la condition de possibilité de cette victimisation. Et je crois que c'est précisément le retrait du religieux. Encore une fois, reportons-nous à 1914, le héros et le saint vont ensemble. Le héros et le saint forment un couple indissociable. Lorsque, entre 1945 et 1965, pour avoir des dates simples, si vous voulez, entre la fin de la guerre et Vatican II, le catholicisme en particulier en France, s'effondre. Cet effondrement est à la fois majeur, extrêmement rapide. En 20 ans, les églises sont désertées, on ne recrute quasiment plus de prêtres, les sacrements disparaissent, les gens ne communient plus. Bon, le christianisme s'effondre. Et ma thèse dans ce livre, c'est que l'effondrement du christianisme, du religieux, et l'apparition de la victime sont dans un lien de cause à effet. Dans le christianisme, il n'y a pas de place pour la victime, au sens où nous l'entendons. Il y a place pour le martyr, mais le martyr, c'est quelque chose de tout à fait différent de la victime. Le martyr témoigne, l'étymologie de martyr, c'est témoin. Le martyr témoigne. Il témoigne de quoi ? Il témoigne de la vérité du christianisme. Le Christ n'est pas une victime, il est un martyr. Bon. Et dans la civilisation chrétienne, il n'y a pas place pour cette victime, c'est-à-dire pour ce personnage qui meurt pour rien. Et précisément, ce qui a été le plus difficile à admettre, dans le cas en particulier des victimes juives, c'est qu'elles n'étaient pas mortes pour la sanctification du nom, donc pour la religion, elles n'étaient pas mortes pour le combat antifasciste, comme disaient les communistes, elles n'étaient pas mortes pour la liberté, elles étaient mortes pour rien. Et admettre, dire cela, les Juifs sont morts pour rien, il a fallu en gros 20 ans. Et pour le dire, il fallait en quelque sorte que le modèle religieux, que la prégnance du modèle religieux disparaisse et qu'on se retrouve devant justement des morts pour rien.
Suite de ce magazine Idée avec notre invitée Françoise Zouvi qui vient d'écrire Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré aux éditions Gallimard. Françoise, oui, je vous propose de nous replonger dans les années 70, cette fois, avec un épisode historique douloureux que nos auditeurs africains vont tout de suite comprendre. C'est la guerre du Biafra, notamment, oui, qui est dans votre livre. On verra pourquoi dans un instant. Et je vous propose d'écouter le reportage d'un journaliste français embarqué alors avec les troupes nigérianes. La guerre du Biafra, conflit au Nigeria, entre la région du Biafra et les Igbo, chrétiens plutôt, et le régime nigérian. La guerre du Biafra qui a fait des millions de victimes. Alors écoutez ce reportage, cet extrait de ce journaliste embarqué avec les troupes nigérianes lors de combats avec des combattants biafrais.
Cependant, il semble que la bataille reprenne et que les biafrais contre-attaquent. L'automitrailleuse qui nous accompagnait tire. Les balles crépitent autour de nous. Un homme tombe, mais la puissance de feu de l'armée nigériane est la plus forte. Et bientôt, on voit les Biafrais s'enfuir les uns après les autres dans la savane derrière les arbres.
Françoise Oubi, vous écrivez dans votre livre « Le Biafra marque un tournant dans l'avènement des droits de l'homme, dans leur acception moderne et un tournant aussi dans l'histoire des victimes. Le mouvement des droits et celui des victimes se rejoignent ici et fusionnent. »
Oui, en effet, je pense que c'est une étape absolument capitale. Je le pense d'ailleurs avec beaucoup d'autres historiens. Il n'y a rien d'original à le dire. Le génocide du Biafra marque en particulier l'avènement de ce qu'on a appelé le devoir d'ingérence, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, les individus priment sur les grands ensembles nationaux.
C'est en 1971 qu'a été créé Médecins sans frontières,
voilà,
par exemple.
Voilà, exactement. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'idée germe. Et c'est très important parce que la société des victimes dans laquelle nous sommes, ô combien, est au fond la société des porteurs de droits, des individus porteurs de droits. Le mouvement de constitution ou de renforcement, je ne sais pas comment il faut dire, des droits de l'homme, ce grand mouvement qui, en effet, culmine dans les années 70.
Et a fait son chemin.
Et oui. se retrouve avec le mouvement victimaire et constitue à ce moment-là cette figure qui est la nôtre encore, qui est l'individu porteur de droits et qui s'estime à tout moment susceptible de devenir une victime si précisément ses droits ne sont pas reconnus. Donc on a là une figure qui va être d'une extrême solidité, l'individu de droit, susceptible de devenir une victime. Et je crois qu'en effet, c'est dans ces années-là que cette idée apparaît. Et elle apparaît avec l'idée qu'au fond, jusque-là, la politique s'est occupée des grands ensembles, s'est occupée des nations, s'est occupée des grands groupes. Vous voyez, l'idéal révolutionnaire était encore là derrière. Bon. Et ce temps est fini. Ce temps a marqué son échec. Et il est temps d'en venir aux individus. Et au fond, les individus valent mieux que les groupes. Et du coup, si des individus sont menacés dans un pays qui n'est pas le nôtre, il faut quand même intervenir. Mmh.
ces années 70 et 80 sont extrêmement importantes. Les années 70, c'est aussi les années de la découverte du... Enfin, de la découverte, pour beaucoup, du goulag, avec le livre de Solzhenitsyn, paru en France en 74, mm-hmm. L'archipel du goulag.
En effet, c'est un jalon tout à fait capital. Mais pour en mesurer l'importance, il me faut revenir un tout petit peu en arrière. Mm-hmm. Parce que tant qu'a prévalu le modèle révolutionnaire, et en particulier dans la cause tiers-mondiste, disons, tant qu'a prévalu le modèle révolutionnaire, la victime ne pouvait pas vraiment émerger, en tout cas là où, précisément, il s'agissait d'appliquer ce modèle révolutionnaire. Pour une raison très simple, c'est que si, quand on pense à des populations, par exemple les Noirs, les colonisés, c'est tout à fait exemplaire, quand on pense à des populations comme celle-là, dans la perspective de la révolution, dans la perspective de la libération, c'est justement leur libération qui doit prévaloir et non pas leur victimisation. Et donc, dans tous les écrits de ces théoriciens du tiers-mondisme, de ces théoriciens de la libération révolutionnaire, les populations concernées ne sont jamais considérées, ou presque pas, comme des victimes. Elles sont considérées comme des sujets à libérer. C'est tout à fait différent de la victime. Alors, je reviens maintenant à l'archipel du Goulag. Lorsque ce modèle révolutionnaire, avec notamment la publication de l'archipel du Goulag, lorsque ce modèle révolutionnaire tombe, c'est-à-dire lorsque la gauche s'avise du fait que les camps soviétiques sont aussi des camps et par conséquent ne méritent pas notre indulgence, à ce moment-là tombe l'idéal libérateur et c'est la victime qui peut surgir. Et on voit ça très, très clairement, très explicitement sur les populations concernées. Je disais par exemple les Noirs, par exemple les colonisés, ne sont plus tant ou plus seulement des sujets à libérer, ce sont d'abord des victimes qui méritent notre compassion. Et alors là, évidemment, le mouvement victimaire va prendre un essor tout à fait différent, car la catégorie de victimes va pouvoir s'appliquer à des populations qui jusque-là étaient avant tout des populations à libérer. C'est vrai des Noirs, c'est vrai des colonisés, c'est vrai des femmes qui sont prise dans la même, comment dire, dans la même perspective.
François Azoui, vous faites référence à Albert Memmi. On a consacré une émission à Albert Memmi en janvier 2021, penseur du fait colonial, auteur de Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur aussi, qui écrit assez rapidement que la victimologie est né, il entend parler de cette science, entre guillemets, et de fait, en 1948, vous le mentionnez dans le livre, la victimologie apparaît aux États-Unis.
Oui, alors le paradoxe, c'est, en effet, elle apparaît dans ces années-là, elle apparaît aux États-Unis, mais elle apparaît à contre-emploi par rapport à ce que nous appelons la victimologie. Elle apparaît avec l'idée qu'au fond, la victime collabore toujours avec son bourreau. Et alors, ce n'est pas pour taper sur la victime, c'est pour essayer de prémunir la potentielle victime de sa victimisation et de dire en quelque sorte aux potentielles victimes, ne vous placez pas dans cette position de future ou de potentielle victime. Donc, en fait, la victimologie apparaît absolument à contresens de ce que nous appelons aujourd'hui la victime, puisque aujourd'hui la victimologie, eh bien, elle consiste à s'intéresser avant tout à la victime, à la défendre et à lui donner non seulement des droits, mais une compensation financière s'il y a lieu.
Alors, il nous faut continuer ce voyage dans le temps. Plongeons-nous maintenant dans les années 2000. Et je vous propose d'écouter Christiane Taubira. Mmh. Là, nous allons parler des lois sur l'esclavage, la traite négrière, considérée comme crime contre l'humanité. Écoutez ce que Christiane Taubira, députée de la Guyane, disait à notre micro de RFI, au mois de mai 2001.
Je suis de plus en plus apaisée sur cette part de mon histoire que j'ai découverte avec violence, avec douleur, avec souffrance, et qui n'appartient pas à moi seule, et sur laquelle il y avait un acte de justice universelle à poser, c'est-à-dire à qualifier ce que cet acte a été, un crime contre l'humanité.
Donc c'est symbolique ?
Ça n'est pas seulement symbolique, sauf si on considère à raison que les symboles sont constitutifs des identités et des cohésions au sein des groupes. Donc cette part de symbole est à revendiquer dans la loi. Mais la loi n'est pas que symbolique. L'article 1er l'est, dans la mesure où une parole solennelle, celle du Parlement français, accompagnée du gouvernement français, dit clairement que la France, qui a été la troisième puissance négrière mondiale, a pratiqué, malgré le code noir, malgré les justifications de l'Église, malgré toutes ces sciences humaines, dites humaines, philosophie, anthropologie, science, ethnologie, etc., qui justifiaient la suprématie occidentale, la suprématie européenne et la bestialité de ce qu'on appelait la race noire, malgré tout cela, c'était un crime contre l'humanité. Alors, donc ça, c'est une dimension symbolique, mais les autres articles ne le sont pas.
Là, il s'agit de la traite transatlantique, soyons clairs, François Azoulay. Vous notez et vous analysez ce qu'on peut appeler un emballement dans les années 2000, car il y a eu beaucoup de lois pénalisant l'esclavage et condamnant le négationnisme. Et vous reprenez Bergson pour nous faire comprendre ce qui s'est passé, et ce qu'il appelait la loi de la double frénésie.
Oui, en effet, c'est un concept qu'il a introduit dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, qui est paru dans les années 30. Et il le présente comme ça. C'est à propos de l'évolution de la vie. Bergson aime bien les dualités. Il en repère partout dans le psychisme, dans l'évolution de la vie, partout.
L'instinct, l'intelligence, voilà. Par exemple.
Il fait remarquer, à propos justement de l'évolution de la vie, il fait remarquer qu'il y a toujours deux tendances contradictoires, qui s'opposent et qui se contrebalancent l'une l'autre en quelque sorte. Alors dans le cas de l'évolution de la vie, c'est par exemple la matière et la vie, ou la matière et l'élan vital. Ça peut être l'instinct et l'intelligence. Et son analyse est la suivante. Tant que ces deux tendances s'opposent et se neutralisent partiellement, réciproquement, aucune d'entre elles ne peut
prendre le dessus
et devenir folle en quelque sorte. Mais si l'une d'entre elles justement disparaît, alors l'autre tendance devient en quelque sorte sans contrepoids et devient folle. Et alors il appelle ça donc la loi de double frénésie. Il me semble que c'est quelque chose comme ça qui est à l'œuvre dans ce que j'ai appelé l'emballement victimaire s'installe. Alors c'est difficile évidemment de donner des dates précises, ça n'aurait pas de sens d'ailleurs.
On peut dire 1990, la loi Guesso par
voilà,
exemple.
Voilà, à partir en gros des années 90.
Condamnation du crime contre l'humanité, hein, enfin, la pénalisation.
Exact. La dynamique victimaire s'emballe. Et alors, elle s'emballe pourquoi ? Elle s'emballe parce que, justement, disparaît l'autre force qui, jusque-là, contrebalançait la dynamique victimaire, qui était la puissance, au fond, de l'État. Jusque-là, l'État avait barre sur les individus, exercer une sorte de transcendance par rapport aux individus et contrebalancer ce qu'il pouvait y avoir de problématique dans la dynamique individualiste des droits de l'homme et de la victime. Et dans ces années 90, un peu partout en Occident d'ailleurs, la transcendance de l'État s'efface au profit des droits de l'homme. C'est le moment où, pour reprendre la formule de Marcel Gauchet, les droits de l'homme deviennent une politique. Il avait vu ça de façon tout à fait prémonitoire dès 1980. Et donc c'est le moment où la suréminence de l'État s'efface, reste à ce moment-là les individus porteurs de droits qui sont des victimes potentielles et ces victimes prennent alors toute la place puisque la tendance qui équilibrait leur appétit en quelque sorte disparaît. On assiste alors à une sorte d'emballement, une sorte de frénésie. Il m'a semblé que, en effet, l'idée bergsonienne de loi de double frénésie rendait bien compte de ce mouvement dans lequel nous sommes.
Dans cette métamorphose du héros à la victime, il nous faut évidemment nous attarder à la fin de cette émission sur le phénomène woke et sur le phénomène MeToo, notamment la parole libérée des femmes.
Oui, comme je disais tout à l'heure, la catégorie des femmes, et en particulier des femmes victimes d'agressions sexuelles, émerge à partir du moment où elles ne sont plus pensées simplement en termes de libération, mais elles deviennent des victimes potentielles ou réelles. Et les deux mouvements auxquels vous avez fait allusion à l'instant, le woke et MeToo, sont deux avatars, je dirais, de cette victimisation emballée. Bien entendu, s'agissant en particulier des femmes, il faut certainement pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et dire que tout est à critiquer. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que il y a, et on revient par là à la loi de double frénésie, il y a dans le phénomène victimaire une tendance intrinsèque à l'amplification. Les victimes appellent d'autres victimes. Quand on était dans le modèle héroïque, au fond, le héros fait difficilement envie, parce que être héros, c'est quand même risquer sa vie. Dans le cas de la victime, il y a cette tendance à dire « me too, moi aussi ». Être une victime, au fond, ou se revendiquer victime quand on ne l'est pas, c'est une tentation qui est inhérente à la notion même de victime. Et c'est pourquoi, avec le modèle victimaire, on est dans une sorte de frénésie où on ne pouvait pas être avec le modèle héroïque, pour cette même raison. Quand on est dans le modèle victimaire, eh bien, on est dans un système où d'autres catégories cherchent sans cesse à être elles aussi des victimes, vraies ou prétendues. C'est le phénomène bien connu de la concurrence victimaire, mais il est intrinsèque à la catégorie de victime. Ce n'est pas un regrettable excès de la catégorie de victime, c'est constitutif de la catégorie de victime.
François Azouvi, pour conclure cette émission, il nous faut revenir sur cette nouveauté absolue que vous décrivez, que vous analysez donc dans ce livre, ce changement anthropologique qui nous fait glisser du héros à la victime, notamment. Vous dites que la victime est aujourd'hui sacrée, mais sacrée avec une, en quelque sorte, vous l'écrivez, une sacralité laïque.
Ben oui. Oui, on est effectivement dans une sacralité sans Dieu, sans transcendance, sans prêtre, sans église. Et la victime, c'est pas d'ailleurs moi qui l'invente. La victime, quand elle est apparue dans les années 50, a été aussitôt qualifié de sacré. C'est apparu à propos des victimes juives de la solution finale. Et puis la notion s'est étendue. Et aujourd'hui, tout le monde le dit et le reconnaît, les victimes sont considérées comme sacrées.
La victime est sacrée, écrivez-vous, sa parole ne peut être que vraie.
Absolument. Et on le voit dans, à propos justement de MeToo notamment, qui est, cette question est l'une des impasses, l'une des difficultés du mouvement MeToo, mais on le voit dans quantité d'autres exemples, à propos des enfants également, des enfants qui déclarent avoir été victimes et qui ne le sont pas. Je me rappelle au moment du, je crois que c'était au moment du procès Outreau, où Ségolène Royal avait dit cette phrase terrible, elle avait dit « l'enfant dit le vrai ». Mais non, il n'y a pas le vrai. Il faut établir le vrai. Mais on est là dans ce qui est peut-être l'aspect le plus terrifiant de cette société, enfin de cette dynamique victimaire, le fait que les victimes disent le vrai par définition.
Françoise, oui, vous écrivez donc que dans ces conditions, le régime héroïque d'exemplarité ne reviendra pas.
Je pense qu'il ne reviendra pas, d'abord parce que l'histoire ne resserre jamais les mêmes plats. Il y aura toujours des héros. C'est une constante anthropologique, évidemment, et il y aura toujours des héros. Le colonel Beltrame que vous citiez tout à l'heure, les Ukrainiens, bien sûr, les femmes iraniennes, bien entendu. Il y aura toujours des héros. Mais la norme héroïque était trop liée au modèle religieux, à mon sens, pour pouvoir revenir. Dans la mesure où ce modèle religieux s'est effacé, et je crois de façon définitive, je ne vois pas comment le modèle héroïque peut ressurgir.
Au moment où il y a, certains le disent, Jean-François Brochstein était venu nous en parler, une religion woke.
Alors, je ne crois pas que le mot religion convienne, justement, parce que moi, je ne vois pas comment on peut comprendre une religion sans Dieu, sans prêtre, sans église, sans transcendance.
Ça fait beaucoup, effectivement.
On a affaire à du sacré, mais le sacré excède le religieux. Le religieux n'absorbe pas tout le sacré.
Merci François Azoubi. Il faut absolument lire votre livre qui s'intitule « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré ». Il donne à réfléchir. Nous aurions pu parler aux États-Unis du mouvement Black Lives Matter. Il y a plein de mouvements qui nourrissent votre réflexion sur ce changement historique du héros à la victime. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Nous parler de cette métamorphose du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré, publiée dans la collection NRF Essai chez Gallimard. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous rappelle que vous pouvez également écouter ce magazine quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio, notamment le site de la radio aussi et votre plateforme numérique préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel. @rfi.fr.
Rendez-vous dimanche prochain à cette même heure pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.